Chapitre 17. Question. Je reçois ton défi. Je l'entends. Parle-moi davantage, s'il te plaît, de la vie sur cette planète, à une plus grande échelle. Dis-moi comment un pays peut s'entendre avec un autre afin qu'il n'y ait plus de guerre. Réponse. Il y aura toujours des désaccords entre les pays, car le désaccord n'est qu'un signe, et un signe de santé, d'individualité. Mais la résolution violente de désaccords est un signe d'une extraordinaire immaturité. Il n'y a aucune raison au monde de ne pas éviter la résolution violente, car les pays veulent l'éviter. On aurait tendance à croire que le bilan massif des morts et des vies détruites serait suffisant pour engendrer une telle volonté, mais chez les cultures primitives comme la tienne, ce n'est pas le cas. Tant que tu croiras pouvoir gagner une discussion, tu l'entreprendras. Tant que tu croiras pouvoir remporter une guerre, tu l'amèneras. Question. Quelle est la réponse à tout cela? Réponse. Je n'ai aucune réponse. Je ne fais que... Question. Je sais. Une observation. Réponse. Oui. J'observe à présent ce que j'ai déjà observé. Une réponse à court terme pourrait être d'établir ce que certains ont appelé un gouvernement mondial, avec un tribunal mondial pour régler les disputes. Tribunal dont on ne pourrait ignorer les verdicts, comme c'est le cas en ce qui concerne le présent tribunal mondial, et une force de maintien de la paix mondiale pour garantir qu'aucun autre pays, peu importe son pouvoir ou son influence, ne pourra plus jamais en agresser un autre. Mais comprends qu'il puisse encore y avoir de la violence sur Terre. La force de maintien de la paix peut, devoir, utiliser la violence pour amener quelqu'un à cesser de le faire. Comme je l'ai fait remarquer dans le tome 1, le fait de ne pas arrêter un despote donne du pouvoir à ce despote. Parfois, la seule façon d'éviter une guerre, c'est de faire la guerre. Parfois, il faut faire ce qu'on ne veut pas afin qu'on n'ait pas à continuer de le faire. Cette contradiction apparente fait partie de la divine dichotomie, qui dit que, parfois, la seule façon d'être quelque chose, en définitive, dans ce cas « paisible », entre guillemets, c'est peut-être, au départ, de ne pas l'être. Autrement dit, la seule façon de te connaître en tant que « ce que tu es », c'est souvent de faire l'expérience de toi-même en tant que ce que tu n'es pas. Il est vrai, et on peut l'observer, que le pouvoir dans ton monde ne peut plus reposer de façon disproportionnée sur un pays en particulier, mais entre les mains du groupe total des pays de cette planète. Ce n'est qu'ainsi que le monde finira par atteindre la paix et se reposer sans crainte, sachant qu'aucun despote, même si son pays est grand ou puissant, ne peut ou ne va une fois de plus violer les territoires d'un autre pays, ni menacer ses libertés. Les plus petits pays n'ont plus besoin de dépendre de la bonne volonté des plus grands, ayant souvent à se départir, dans la transaction, de leurs propres ressources et à offrir leurs meilleures terres pour des bases militaires étrangères afin de la gagner. Selon ce nouveau système, la sécurité des plus petits pays sera garantie non pas par les services rendus, mais par ceux qui les appuient. Si un seul pays était envahi, les 160 pays se lèveraient ensemble. Si un seul pays était violé ou menacé d'une façon ou d'une autre, les 160 pays diraient non. De même, les pays ne seraient plus menacés économiquement. Leurs plus gros partenaires économiques ne les feraient plus chanter pour qu'ils adoptent certaines voies. On n'exigerait plus qu'ils répondent à certains critères afin de recevoir l'aide étrangère ou qu'ils soient mandatés pour agir de certaines façons afin de se qualifier pour une simple assistance humanitaire. Mais pour certains d'entre vous, un tel système de gouvernement mondial éroderait l'indépendance et la grandeur des pays. En vérité, il l'accroîtrait. Et c'est précisément ce que craignent les plus grands pays, dont l'indépendance est assurée par le pouvoir et non par la loi ou la justice. Car alors, non seulement le plus grand pays obtiendrait-il automatiquement gain de cause, mais les considérations de tous les pays devraient être également entendues. Et les plus grands pays ne pourraient plus contrôler ni détenir la masse des ressources mondiales, mais seraient tenus de les partager plus équitablement, de les rendre accessibles plus ouvertement, de fournir leurs bénéfices plus uniformément à tous les gens de la Terre. Un gouvernement mondial nivellerait le terrain de jeu, et cette idée, tout en nous amenant au cœur du débat sur la dignité humaine fondamentale, est un anathème pour les nantis du monde, qui veulent que les démunis atteignent leur propre fortune, ignorant, bien sûr, le fait que les nantis contrôlent tout ce que les autres voudraient atteindre. Question. Mais on dirait que nous parlons de redistribution de la richesse. Comment pouvons-nous maintenir les motivations de ceux qui veulent davantage et qui sont prêts à travailler pour l'avoir, s'ils savent qu'ils devront partager avec ceux qui ne se soucient pas de travailler autant ? Réponse. D'abord, la question ne se résume pas à ceux qui veulent travailler fort et aux autres. C'est une façon simpliste de soumettre l'argument, ainsi construit, habituellement, par les nantis. Il s'agit plus souvent d'occasion que de volonté. Alors, la tâche véritable, la première dans la restructuration de l'ordre social, est de faire en sorte que chaque personne et chaque pays aient une chance égale. Cela ne pourra jamais se produire tant que ceux qui possèdent et contrôlent actuellement la masse de la richesse et des ressources du monde s'agrippent solidement à ce contrôle. Question. Oui, j'ai mentionné le Mexique et sans vouloir blâmer un pays en particulier, je pense que ce pays en fournit un excellent exemple. Une poignée de riches et puissantes familles contrôlent la richesse et les ressources de ce pays entier depuis 40 ans. Dans cette prétendue démocratie à l'occidentale, les élections, entre guillemets, sont une farce, car les mêmes familles contrôlent le même parti politique depuis des décennies, n'assurant pratiquement aucune opposition sérieuse. Le résultat ? Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Si les salaires faisaient un bond de 1,75$ à 3,15$ l'heure, les riches souligneraient tout ce qu'ils ont fait pour les pauvres en leur fournissant des emplois et une chance d'avancement économique. Mais les seuls à faire des progrès quantiques sont les riches, les industriels et propriétaires de compagnies qui vendent leurs matières premières sur le marché national et mondial en faisant des profits énormes, étant donné le faible coût de leur main-d'œuvre. Les riches américains savent que c'est vrai. C'est pourquoi nombre de riches et puissants américains sont en train de reconstruire leurs usines et leurs manufactures au Mexique et dans d'autres pays étrangers où les paysans considèrent des salaires d'esclaves comme une chance inouïe. Entre-temps, ces travailleurs peinent dans des conditions malsaines et tout à fait dangereuses. Mais le gouvernement local, contrôlé par la même élite qui récolte les profits de ces entreprises, impose peu de réglementations. Les normes de santé et de sécurité et les formes de protection écologique sont, à toute fin pratique, inexistantes au travail. On ne prend pas soin des gens, ni de la terre sur laquelle on leur demande de vivre dans leur taudis de papier, à côté de ruisseaux dans lesquels ils font la lessive et dans lesquels ils défèquent parfois, car souvent, la plomberie ne fait pas partie de leurs privilèges. Ce que l'on crée, en négligeant autant les masses, c'est une population qui ne peut se payer les produits même qu'elle fabrique. Mais les riches propriétaires d'usines ne s'en font pas. Ils peuvent envoyer leurs biens dans d'autres pays, où il y a des gens qui peuvent se les payer. Mais je crois que, tôt ou tard, cette spirale se retournera sur elle-même, avec des conséquences dévastatrices. Pas seulement au Mexique, mais partout où l'on exploite les humains. Réponse. Les révolutions et la guerre civile seront inévitables, tout comme les guerres entre pays, aussi longtemps que les nantis continueront à exploiter les démunis sous prétexte de leur fournir des occasions. Question. Le fait de s'accrocher à la richesse et aux ressources est devenu tellement institutionnalisé qu'il semble à présent acceptable, même aux yeux de certaines personnes soucieuses d'équité, pour qui ce n'est rien d'autre qu'une économie de marché ouvert. Réponse. Mais seul le pouvoir détenu par les individus, les pays riches du monde, rend possible cette illusion de justice. En vérité, ce n'est pas juste pour la majorité des individus et des pays du monde que l'on empêche même de tenter d'atteindre ce que les puissants ont atteint. Le système de gouvernement décrit ici déplacerait radicalement l'équilibre du pouvoir de ceux qui sont riches en ressources vers ceux qui sont pauvres. Le système de gouvernement décrit ici déplacerait radicalement l'équilibre du pouvoir de ceux qui sont riches en ressources vers ceux qui sont pauvres en ressources, obligeant à un partage équitable des ressources mêmes. Question. Voilà ce que craignent les puissants. Réponse. Oui. Alors, la solution à court terme au problème du monde, ce peut être une nouvelle structure sociale, un nouveau gouvernement mondial. Certains de vos leaders ont eu suffisamment de clarté et de courage pour proposer les débuts d'un tel ordre mondial. Votre George Bush, que l'histoire jugera comme un homme d'une sagesse, d'une vision, d'une compassion et d'un courage bien plus considérable que la société contemporaine ne voulait ou ne pouvait lui reconnaître, était un leader de ce type. Tout comme le président soviétique Mikhail Gorbatchev, le premier chef d'État communiste à gagner le prix Nobel de la paix, un homme qui a proposé d'énormes changements politiques, mettant un terme, à toute fin pratique, à ce que vous appelez la guerre froide. Tout comme votre président Carter, qui a amené messieurs Begin et Sadat, a signé des accords dont personne d'autre n'avait jamais rêvé et qui, longtemps après la fin de son mandat, a sauvé le monde d'une violente confrontation par la simple affirmation d'une vérité élémentaire. Le point de vue de personne n'est pas moins digne d'être entendu que celui d'un autre. Aucun être humain n'a moins de dignité qu'un autre. Il est intéressant de constater que chacun de ces courageux leaders, qui, à l'époque, ont sauvé le monde de l'abîme d'une guerre, épousé et proposé que l'on s'éloigne largement de la structure politique dominante, que chacun n'a servi qu'un mandat et a été retiré de son poste par les gens mêmes qu'il cherchait à élever. Incroyablement populaires partout dans le monde, ils ont été régulièrement rejetés chez eux. On dit que nul n'est prophète en son pays. Dans le cas de ces hommes, c'est parce que leur vision avait une bonne longueur d'avance sur celle de leurs électeurs, qui ne pouvaient voir que des préoccupations limitées, des problèmes de clocher, et n'imaginaient de ces visions plus grandes que la perte qui pouvait en découler. De même, chaque leader qui a osé sortir du rang et appeler la fin de l'oppression par les puissants a été découragé et sali. Il en sera toujours ainsi jusqu'à ce que l'on applique une solution à long terme, qui n'est pas une solution politique. Cette solution à long terme est la seule véritable, est une nouvelle prise de conscience, une nouvelle conscience. Une prise de conscience de l'unité et une conscience de l'amour. L'incitation à réussir, à tirer le plus grand parti de sa vie, ne doit pas être une récompense économique ou matérialiste. Il n'est pas à sa place dans ce contexte. Cette priorité, voilà ce qui a créé tous les problèmes dont nous avons parlé ici. Lorsque l'incitation à la grandeur ne sera pas économique, lorsque la sécurité économique et les besoins matériels fondamentaux seront garantis à tous, la motivation ne disparaîtra pas, mais elle sera d'un ordre différent, augmentant en force et en détermination, produisant une grandeur véritable, et non le genre de grandeur, entre guillemets, transparente et transitoire que produisent les incitations actuelles. Question. Mais pourquoi le mieux vivre, la création d'une meilleure vie pour nos enfants, n'est-elle pas une bonne incitation ? Réponse. Le mieux vivre, entre guillemets, est une incitation convenable. Créer une meilleure vie, entre guillemets, pour vos enfants, c'est vraiment une bonne incitation. Mais la question c'est, qu'est-ce qui rend la vie meilleure, entre guillemets ? Quelle est ta définition de meilleur ? Quelle est ta définition de vie ? Si pour toi, meilleur veut dire plus grosse, plus imposante, avec plus d'argent, de pouvoir, de sexe et d'objets, maison, auto, vêtements, collection de CD, n'importe quoi. Et si tu définis la vie comme la période qui se déroule entre ta naissance et la mort dans ta présente existence, alors tu ne fais rien pour sortir du piège qui a engendré les maux de votre planète. Mais si, pour toi, meilleur veut dire l'expérience plus vaste et l'expression plus grande de ton plus grandiose état d'être, et la vie comme un processus éternel, continu et infini d'être, tu trouveras peut-être ton chemin. Une vie meilleure, entre guillemets, ça ne vient pas de l'accumulation d'objets. La plupart d'entre vous savez cela. Vous dites tous comprendre cela, mais vos vies et les décisions que vous prenez dans la conduite de vos vies ont autant à voir avec les objets qu'avec tout le reste, et habituellement davantage. Vous cherchez à obtenir des objets, vous travaillez pour obtenir des objets. Et quand vous obtenez certains des objets que vous voulez, vous ne les abandonnez jamais. La motivation de la plus grande partie de l'humanité est d'atteindre, d'acquérir, d'obtenir des objets. Ceux qui ne se soucient pas des objets les abandonnent facilement. Parce que votre présente incitation à la grandeur a un rapport avec l'accumulation de tout ce qu'offre le monde entier est en lutte à diverses étapes. D'énormes segments de la population sont encore en train de se battre pour la simple survie matérielle. Chaque journée est remplie de moments d'anxiété, de mesures désespérées. L'esprit se préoccupe de questions fondamentales, vitales. Y aura-t-il suffisamment de nourriture ? Un abri est-il disponible ? Serons-nous au chaud ? Un nombre énorme de gens se préoccupent encore quotidiennement de ces questions. Chaque mois, des milliers de gens meurent. Uniquement par manque de nourriture. Certains, moins nombreux, peuvent compter raisonnablement sur les bases de survie qui apparaissent dans leur vie, mais s'efforcent d'y ajouter quelque chose, un minimum de sécurité, une maison modeste mais décente, un meilleur lendemain. Ils travaillent fort, en se demandant s'ils avanceront, entre guillemets, jamais et de quelle manière. Ils ont l'esprit préoccupé par des questions urgentes et inquiétantes. Un nombre de gens encore bien moindre ont tout ce qu'ils pourraient jamais demander, en fait, tout ce que les deux autres groupes demandent, mais, curieusement, plusieurs d'entre eux demandent encore davantage. Leur esprit veille à s'accrocher à tout ce qu'ils ont acquis et à augmenter la quantité de leurs biens. À ces trois groupes s'ajoute un quatrième. C'est le plus petit groupe de tous. En fait, il est minuscule. Ce groupe s'est détaché du besoin d'objets matériels. Il se préoccupe de vérités spirituelles, de réalités spirituelles et d'expériences spirituelles. Les membres de ce groupe considèrent la vie comme une rencontre spirituelle, un voyage de l'âme. C'est dans ce contexte qu'ils répondent à tous les événements humains. Ils entretiennent toute l'expérience humaine au sein de ce paradigme. Leur lutte a quelque chose à voir avec la recherche de Dieu, l'accomplissement du soi, l'expression de la vérité. À mesure qu'il évolue, cette lutte devient non plus une lutte, mais un processus. C'est un processus de définition du soi, et non de découverte de soi, de croissance, et non d'apprentissage, d'être, et non de faire. La raison de la recherche, de la lutte, de la quête, de l'effort et de la réussite devient complètement différente. Peu importe ce qu'on fait, on le fait pour une raison différente, et on change en même temps que cette raison. C'est le processus qui devient la raison de faire. Au lieu de seulement faire, on en vient à être. Tandis qu'auparavant, c'était pour des objets matériels que l'on consacrait toute sa vie à l'effort, à la lutte, au dur travail, c'est maintenant pour faire l'expérience des choses célestes qu'on s'y livre. Tandis qu'auparavant, les préoccupations étaient largement celles du corps, à présent, les préoccupations sont largement celles de l'âme. Tout s'est déplacé, tout a changé. Le but de la vie a changé, tout comme la vie même. L'incitation à la grandeur, entre guillemets, a changé. Et avec elle, a disparu le besoin de convoiter, d'acquérir, de protéger et d'augmenter le nombre de biens matériels. La grandeur ne se mesurera plus selon la quantité de biens que l'on a accumulés. Les ressources mondiales seront à juste titre considérées comme appartenant à tous les habitants du monde, dans un monde doté d'une abondance suffisante pour répondre aux besoins fondamentaux de tous. Les besoins fondamentaux de tous seront satisfaits. Chacun voudra qu'il en soit ainsi. Il ne sera plus nécessaire de soumettre quiconque à un impôt involontaire. Vous allez tous envoyer volontairement 10% de votre récolte et de votre abondance à des programmes de soutien pour ceux dont la récolte est moindre. Il ne sera plus possible pour des milliers de gens de rester là, à en regarder mourir de faim des milliers d'autres, non pas faute de nourriture, mais faute de volonté humaine suffisante pour créer un simple mécanisme politique au moyen duquel les gens pourront obtenir de la nourriture. De telles obscénités morales, maintenant courantes dans votre société primitive, seront effacées à jamais le jour où vous changerez votre incitation à la grandeur et la définition que vous en avez. Votre nouvelle incitation ? Devenir ce pourquoi je vous ai créé, l'image physique de la déité même. Lorsque vous choisirez d'être celui que vous êtes vraiment, Dieu rendu manifeste, vous n'agirez jamais plus d'une manière indivine. Vous n'aurez plus à exhiber des autocollants comme « Dieu, sauve-moi de tes adeptes ».